Je vous invite à la prière, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais de nous donner ta parole. Ouvre nos yeux et nos oreilles intérieures, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, un peu plus loin, il est dit « Ce qui est fait du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec ?» C'est une manière métaphorique d'exprimer la souffrance qu'a vécu Jésus et ce que nous, qui sommes rattachés à lui, sommes amenés à vivre. Mais avant de pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement prier pour une sœur qui était au milieu de nous et qui se retrouve à Boisseron, maison de retraite, et qui se battait depuis longtemps contre le cancer. On a été avec Anthony Lewin, il y a 2-3 jours, on a prié pour elle, pour préparer l'échéance. Mais j'ai le sentiment qu'elle n'est pas en paix. Et que si jamais l'irréversible se produit maintenant, elle risque de ne pas être dans la présence de Dieu. Et pourtant, elle a eu presque plus de 60 ans de vie de foi. Et ça me questionne. Quelle est notre conviction par rapport à ce Jésus que nous connaissons? Elle n'est pas en paix. Et ce matin, encore, elle a envoyé des petits SMS pour montrer qu'elle est agitée. Alors, avant de pouvoir aller beaucoup plus loin, j'aimerais avec vous, vous joindre à moi, prier pour elle, pour que le Seigneur puisse lui apporter la paix et lui apporter la conviction que Dieu l'aime et qu'il a encore temps de pouvoir tenir la main du Seigneur s'il y a encore des doutes. Seigneur, nous te recommandons notre sœur Gisèle. Tu la connais mieux que nous-mêmes. Tu connais les chemins par lesquels elle est passée, les difficultés auxquelles elle était confrontée. Lorsque nous parlons à elle de toi en tant que bon berger, elle semble ne pas faire le lien entre cette qualité que tu représentes et les souffrances auxquelles elle est confrontée. Si tu étais le bon berger, pourquoi souffre-t-elle dans son corps? Pourquoi est-elle confrontée, Seigneur, à ces affres? Souvent, c'est des questions que nous nous posions, sans pour autant avoir une réponse. Mais la réponse à cette question se situe dans la prédication que nous allons partager. Donne à chacun de nos cœurs de recevoir ce message avec empressement, pour que nous puissions marcher de manière équilibrée, en attendant l'échéance. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. C'est une thématique que je veux prendre de l'autre côté de l'angle. Parce que souvent, lorsque la thématique de la parole de Dieu est là, on a l'habitude de l'aborder de telle manière. Ce qui fait que lorsqu'on lit le texte, ceux qui étaient les plus anciens dans l'Église connaissent déjà la chute. Mais vous allez vous tromper. Écoutez ce message avec des oreilles nouvelles, avec des cœurs bien disposés. Nous allons lire quelques textes. Romains chapitre 8. Lisons-le ensemble. Nous savons, et j'insiste sur le mot savoir, la vie chrétienne ne sont pas des ressentis, ce ne sont pas des sentiments. Mais la vie chrétienne, elle se base sur le savoir de Dieu, sur la connaissance de Christ et la connaissance de sa parole. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan ou selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On peut s'arrêter là. L'autre texte. Romains chapitre 5, verset 2. C'est à lui, Jésus, que nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Continuons. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit quoi ? La persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque, qu'il ne vous manque rien. On peut s'arrêter là. Ce sont des promesses à couper le souffle. Mais c'est un grand encouragement pour les enfants de Dieu, surtout pour ceux qui passent en ce moment des moments difficiles. Tout le monde souffre. Même les non-chrétiens souffrent. Mais nous, lorsque nous souffrons en étant en Christ, nos souffrances prennent une autre nuance, une autre coloration. Parce que les retombées, les conséquences ne sont pas les mêmes. Dieu tire du bien dans nos afflictions. Dieu tire du bien dans nos épreuves. Dieu utilise nos persécutions à notre faveur. Et parfois, les souffrances que nous traversons sont des terrains d'atterrissage de bénédiction. C'est comme des murs. Le trésor est derrière le mur. Il n'y a pas une autre façon d'accéder à ce trésor que de rentrer dans le mur. Et Dieu utilise parfois des périodes difficiles de nos vies pour pouvoir nous accorder sa bénédiction, et vous en comprendrez les raisons tout à l'heure. Le bien que Dieu produit nous prédestine à être semblables à l'image de son Fils, le Christ, pour enfin nous mener à la glorification. Je veux m'attarder un peu ici. Nous sommes les êtres de la chair matérielle. Et lorsque le péché a été commis, c'est comme une sorte de muraille de voile qui nous sépare de Dieu. On ne voit plus les mêmes réalités spirituelles avec le regard divin, parce que notre regard a déjà changé. Mais lorsque nous devenons chrétiens en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, écoutez bien s'il vous plaît, lorsque nous recevons la semence de Jésus en nous, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais en nous, il y a une nouvelle nature embryonnaire qui est là, qui est censée grandir. Et donc la vie chrétienne, c'est l'expression visible de ce que nous sommes déjà devenus à l'intérieur. Nous sommes devenus enfants de Dieu, avec la lumière, l'amour de Christ. Mais en même temps, nous sommes issus de la terre. moulés par le péché, avec des anciennes mentalités, des anciens réflexes, des sens de valeurs différentes. Que tout cela devait être chamboulé, remis en ordre pour que nous soyons en lien avec Dieu. Et la bataille commence entre la vie nouvelle et la vieille nature qui est en nous. Et la vieille nature joue comme une sorte de voile qui nous empêche la présence de Dieu, plus ou moins épais. Et Dieu va se servir des circonstances de la souffrance pour amincir, faire tomber cet épais rideau de la chair qui nous empêche d'écouter, de voir, de sentir et de goûter les choses de Dieu. C'est là surtout le secret de la vie spirituelle. Voilà pourquoi les épreuves, Dieu les permet. Considérées comme un sujet de joie complète, pas de joie à moitié. Nous devons nous réjouir pour les difficultés par lesquelles le Seigneur nous fait passer. En fuyant les difficultés, nous gardons épais nos voiles et nous empêchons d'écouter la voix de Dieu. C'est si simple que ça. Quelqu'un m'a appelé cette semaine ou la semaine d'avant. Mais comment on écoute la voix de Dieu? Il y a certaines sensibilités qui pensent que si Dieu veut parler, il vient se dresser devant toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas mettre 2 carreaux de sucre dans ton café ce matin et que ce midi, tu dois manger des caviar. C'est la volonté de Dieu. Mais non. Dans certaines circonstances, Dieu intervient pour donner une instruction précise. Mais Dieu veut que nous puissions être imprégnés dans sa parole pour que tout notre être soit en fusion, en osmose, à communion avec lui. De manière à ce que, comme une femme ou comme un homme, tu cliques l'œil, tu sais que ton mari veut ça et ta femme veut ça. Et donc Dieu, il agit au travers de cette manière-là. C'est une culture, c'est une progression. Et il faut le vouloir. Grandir signifie qu'il faut vouloir grandir. Les souffrances que Dieu utilise s'appliquent dans la vie du croyant. C'est des merveilleuses promesses que nous venons de lire qui se composent en 4, que je ne développe pas aujourd'hui. Premièrement, la certitude. Parce que lorsqu'on sait, on sait. Deuxièmement, la portée de cette promesse, elle concerne toutes choses dans nos vies, les bonnes ou les mauvaises. Troisièmement, les bénéficiaires. En dehors de la grâce générale, la pluie et le vent que Dieu donne à tout le monde, il y a des grâces spécifiques qui sont données à ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu signifie garder sa parole. Garder sa parole ne signifie pas ne pas pécher. Il peut nous arriver de tomber, mais il faut se relever. Et dernièrement, la source. Qui est Dieu? Mais que signifie cette promesse que nous venons de lire point par point? Il est dit que toutes choses, prises chacune une après l'autre, il ne s'agit pas que de bonnes choses aussi. Il ne s'agit pas juste des événements plaisants qui arrivent dans notre vie, qui nous fait réjouir, qui nous fait danser, qui nous fait chanter, ou qui nous fait rire dans notre existence. Ça existe. On ne va pas pleurer si un enfant vient de naître. C'est la joie. En revanche, on pleure quand on perd un être. Les deux événements sont opposés, mais ils contribuent à quelque chose dans notre vie. Ici, Paul inclut également les souffrances. Parfois, je n'aime pas le mot échec, parce que le chrétien n'échoue jamais. Il peut avoir une non-réussite momentanée, mais de cette non-réussite, il tient quelque chose. On pourrait dire une non-réussite, subir une injustice, être confronté parfois à des maladies tenaces, devant lesquelles on se pose « Pourquoi Seigneur ?» Et il y a des pourquoi auxquels Dieu ne répond pas. Mais l'épître de Jacques nous donne une réponse Il dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, dans certaines versions c'est tentation, mais le mot tentation est beaucoup plus faible que le mot épreuve. Le mot épreuve signifie quelque chose que tu as dans la main et tu te confrontes à une opposition pour voir si ce que tu as, tu le gardes pour toi ou pas, ou tu le laisses tomber. C'est ça le sens du mot épreuve. Quand on acquiert la vérité, on va se retrouver dans une circonstance où l'ennemi veut utiliser les circonstances pour arracher de notre main cette vérité que nous avons acquise. Donc l'épreuve, c'est de serrer la vérité en soi et d'affronter les épreuves sans trahir la vérité. Considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit une qualité que de moins en moins notre siècle connaît, sauf vous qui avez connu la guerre. Ce mot, c'est quoi? L'endurance. L'endurance. Cette génération n'aime pas l'endurance. Nous vivons une civilisation de facilité. Et ça, c'est un terrain spirituel que le diable a préparé pour en arracher un maximum. Acceptez de vous confronter à l'endurance, à la non-satisfaction immédiate. Dieu compare le royaume de Dieu à des pierres précieuses qu'il faut aller chercher, chercher, chercher. Le diamant, ça se trouve toujours à une certaine profondeur. Même si chez moi, parfois, vous marchez sur la route dans certaines villes où vous le retrouvez sur le sol. Vous n'allez pas tous débarquer à Bangui. C'est pourquoi les Occidentaux aiment beaucoup aller à Bangui, mais c'était pour d'autres raisons. Mais si vous voulez des pierres précieuses, il faut le gratter, c'est-à-dire l'effort. Le salut, il est gratuit, mais ce qui en découle n'est pas gratuit. Ah oui, il faut des efforts. On pense que Dieu donne tout gratuitement. Dieu donne son Fils déjà, et le reste, c'est à nous de le faire. Ainsi, lorsque nous acceptons l'endurance, elle construit en nous l'état d'adulte, plein de force, des hommes et des femmes. Et il y a une solidité interne, auquel il ne manque rien. Ici, il ne manque rien ne signifie pas que vous avez suffisamment de comptes en banque, que toutes les maisons de la terre vous appartiennent. Non. Quand il dit qu'il ne vous manque rien, ça suppose que nous avons tout déjà. Ah oui, celui à qui rien ne manque, c'est qu'il a tout. Et le tout, c'est qui? C'est Jésus. Ici, l'épreuve est en train de construire pour que Jésus, dans toute sa splendeur, soit formé en nous. Et quand nous avons Jésus, on a tout. C'est pourquoi il disait à ses disciples, allez annoncer l'évangile, ne prenez ni sac ni double sac. Allez, avec le bâton. Je suis tout pour vous. Mais quand on a tout, pourquoi s'inquiéter? Dans ce même chapitre, si on le lit beaucoup plus haut, et ça je vous invite, Paul a évoqué les gémissements de la création et les épreuves. C'est dire que même le chaos, le désordre, la douleur que le monde traverse est inclue dans toute chose. Le prix de l'essence qui augmente, les denrées alimentaires qui augmentent. Et on n'a pas encore tout vu. Ce n'est que le commencement de la douleur. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Je vous le dis, vous l'intégrez pour que vous soyez tranquille et que vous ne hurlez pas comme les autres. Dieu a la maîtrise de la situation, il est au contrôle. Prenez cela comme une prophétie. C'est à ce niveau-là que notre regard doit être aligné, de voir tout en bien. Que nos yeux intérieurs s'ouvrent sur les réalités des choses spirituelles. Malheureusement, parfois nos yeux humains sont beaucoup plus ouverts que nos yeux spirituels. C'est ce que demande l'Esprit de Dieu à l'église de Laodicée. Souvenez-vous, je le lis. Tu dis que tu es riche, tu as amassé des trésors et que je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié. Acheter, c'est un effort. C'est un coût. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin que on ne voit pas ta nudité et des collyres pour soigner tes yeux spirituels afin que tu vois clair. Et ça, c'est Dieu qui va travailler pour que nos yeux s'ouvrent. Et souvent, les souffrances auxquelles nous sommes confrontés et qui nous font pleurer, qui nous font verser des larmes, les larmes qui sortent de nous, c'est comme des collyres qui nous lavent les yeux. Et comme ça, nous voyons avec clarté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit que toute chose travaille, concourt, coopère, collabore. C'est ça le sens du mot. Et ce mot, on le retrouve dans les entreprises par le mot « synergie ». C'est-à-dire une combinaison de différents éléments qui déclenche une opération pour un résultat supérieur. Et donc les événements pris un à un, les choses une à une, les souffrances que Dieu prend, il s'y met dans son logiciel. Et il va travailler jusqu'à ce que ces souffrances soient une occasion de grâce pour nous. Et la Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Un chasse mille, deux chasse 10 000, c'est pour dire quoi? C'est que parfois quand Dieu prend un élément, deux, trois ou quatre, et qu'il les combine, c'est pour un résultat supérieur. Ce qui est à comprendre dans ça, excusez-moi, il va pas faire la machine, il joue des tours. Alors, il ne peut pas m'avoir parce que j'ai prévu tout ça. Ce qui est à comprendre est que Dieu prenne les événements isolés, même mauvais, et les tisse dans un plan global. Comme un artisan qui utilise des pièces brutes pour faire une œuvre. C'est dire que ce qui nous arrive a déjà été préparé par Dieu. Et Dieu, dans son plan bien défini, l'a secrètement intégré dans tout ce qui nous arrive. Et tout ceci sous le contrôle de Christ. Car c'est en lui que tout se réalise. Que tout devient opératoire. Et si tel est le cas, si nous comprenons bien ces choses, nous ne pouvons pas nous plaindre. Notre bouche va s'ouvrir en louange pour Dieu. Même si tu es en train de pleurer, tu dis « Seigneur, tu es merveilleux », même si tu pleures. Parfois, les pleurs ne signifient pas que ce que Dieu fait est que mauvais. Pleurez, parce que pleurer, c'est bon. Ça libère nos âmes. Vous avez l'angoisse. Pleurez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Mais que dans votre cœur, vous ne maudissez pas Dieu. Que vous dites « Seigneur, tu connais toutes choses. Peut-être mon intelligence n'est pas assez suffisante pour intégrer tout le contour de ton plan dans ma vie, mais je sais que tu m'aimes et tu ne peux pas permettre que les épreuves soient au-delà de ma force. Et que par ta main, je m'en sortirai. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des choses que je vis avec le Seigneur et mon épouse. Si je mets à vous raconter, on va dire que Samuel est en train de faire son autobiographie. Mais je ne le dis pas. Faites-le, vous allez voir. Et toutes ces choses-là travaillent quoi? Pour le bien. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas dit pour le confort. Non. Il n'est pas dit pour le confort de ceux qui aiment Dieu. Non, pour le bien. Parfois, l'inconfort, c'est notre bien. L'inconfort, c'est charnel. Et parfois, quand Dieu veut te faire grandir, il va créer des situations de tension. poisson qui veut sortir de sa coque dans laquelle il était, je dis poisson, un poulet qui veut sortir de sa coque dans laquelle il était, à un moment donné, la coque va le gêner parce qu'il veut grandir. Et donc, il y a des situations à laquelle nous sommes habitués et quand Dieu veut nous faire grandir, il va créer un inconfort. Il va nous donner une envie immense. Il va nous donner d'être dérangés pour que nous gagnions en largeur. Et donc, l'inconfort n'est pas que négatif. Le bien que Dieu veut dire ici, c'est être conforme à l'image de son Fils, bien par excellence. Le but de Dieu n'est pas de nous éviter des problèmes, mais de nous transformer par ces problèmes pour que nous ressemblions à Christ. C'est pour ça que je dis que changez vos prières. Ne priez, Seigneur, cette difficulté-là, écarte-le de moi. Ce n'est pas une bonne prière, ça. Ce n'est pas chrétien. Là, je vous le dis. Si les choses ne changent pas dans votre vie, changez la manière de prier. Seigneur, rends-moi épais pour affronter ce qui vient là. Voilà. Ça, Dieu dit que voilà. Voilà, ça, c'est ça. Et lorsque nous traversons cela, il travaille notre caractère à l'image de Christ. Il nous purifie, travaille notre pureté. Il travaille notre amour qui ressemble à celui de Dieu. Il nous rend sensibles aux autres par la compassion, capable de souffrir avec les autres. L'endurance. Excusez-moi, je vois ma montre parce qu'il ne faut pas que je m'allonge. Alors cette promesse est adressée à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan ou selon son projet. Nous participons tous au projet de Dieu. Nous ne sommes pas venus au monde par inadvertance. On ne nous a pas jetés dans le monde. C'est le plan de Dieu. C'est que nous devons, en devenant chrétiens, participer à l'accomplissement du plan de Dieu. En quoi faisant? En répandant l'Évangile. On garde trop l'Évangile pour nous. Nous ne nous laissons pas influencer par le monde. À dire que la foi, c'est privé. Non. Non. On peut respecter les endroits où on ne doit pas annoncer la foi, mais la foi, nous le portons. Je ne peux pas être différent au bureau de ce que je suis à la maison. Le sel, il n'est pas sel en cuisine et puis au bar, il devient sucre. Non, on est sel. C'est pourquoi ce verset s'adresse à ceux qui ont une relation avec Dieu et qui répondent à son appel, c'est-à-dire selon son projet. Et quand on est dans le Seigneur, c'est le projet de Dieu qui élabore. La Bible dit que le cœur de l'homme est chargé de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Vous voyez? Notre nature humaine a son plan, et en nous, il y a le plan de Dieu, mais il rentre en conflit. Et il y a un qui doit céder. Notre plan doit se soumettre au plan de Dieu. Et la bataille s'arrête. Sinon, votre vie spirituelle ne serait que des bouillonnements. Et c'est épuisant. Alors, je termine. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui ont été présentés aux hommes, aux chrétiens. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment de la tentation, il vous donnera des ressources, de la supporter et des moyens d'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde alors les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte qui est attachée à une telle mort. Mais parce qu'il savait qu'il allait vivre la glorification, parce que nous savons que lorsque Jésus viendra, nous allons vivre comme lui, alors les épreuves ne sont qu'un point de passage. Ce n'est pas un lieu où il faut habiter. On le traverse, les épreuves. Quand je traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, je retrouve devant moi un chemin tout tracé vers la félicité éternelle. Changez de regard sur les épreuves. Priez pour que Dieu vous donne un cœur qui est le sien pour accepter les difficultés par lesquelles nous passons. Je n'ai pas tout exploré, mais ça, c'est déjà suffisant pour nous aider à marcher dans la bonne direction. Alors, la souffrance n'est pas nécessairement une sanction divine, contrairement à ce que d'autres pensent. Ah non, les souffrances ne sont pas des sanctions. C'est la manière de Dieu aussi d'exprimer son amour à sa manière, même si nous ne le comprenons pas. Tous les champions de la foi ont donné l'exemple de persévérance. Imitons-les. Continuons à marcher dans la foi, les yeux fixés sur Jésus, le cœur de notre foi. Il n'a pas hésité à affronter la mort et l'opposition injuste. Il a ainsi vaincu la mort et il vit maintenant éternellement auprès de Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser la souffrance à notre propre bien, si et seulement si notre regard change. Et si et seulement si nous sommes convaincus que Dieu veut que de notre bien et que sa force est à notre faveur. La puissance de Dieu n'est pas contre toi. Écoute, la puissance de Dieu n'est pas contre toi, même si tu pèches. Dieu ne te détruit pas. Si tu pèches, que Dieu veut te corriger, il te tue. À quoi ça sert sa correction? On corrige quelqu'un qui est vivant pour qu'il puisse continuer à marcher de manière modèle. Donc quand Dieu corrige, il ne te met pas à mort. Arrête, le diable te dit qu'il va te tuer. Dieu ne tue pas. Dieu, il saisit quelque chose pour l'améliorer, personnellement. Je vous invite à la prière. Seigneur, il n'y a rien qui soit beaucoup plus puissant que ta parole. Parce que le monde visible auquel nous sommes attachés, dont tu nous donnes d'apprécier par les cinq sens, ont été créés par cette parole. Mais il y a un monde invisible beaucoup plus vaste, infini, qui est aussi le produit de cette parole. Et que c'est dans ce monde invisible que se dessinent, Seigneur Dieu, nos vies sur terre. Et Jésus est devenu maître de cet environnement. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, en sorte que sur la terre, tout nom confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Dans le ciel, il est le Seigneur. Sur la terre des hommes, il est le roi des rois. Et même, Seigneur Dieu, dans le monde infernal, sous la terre, dans le sous-monde, Jésus a été proclamé roi. Et rien ne lui échappe. Et c'est notre Seigneur. Et c'est lui qui nous parle ce matin. Il nous adresse, Seigneur Dieu, de mettre tout notre cœur en lui, de le prendre pour le refuge. Il est le rocher que nos mains ne peuvent atteindre, mais il n'y a que lui seul qui peut nous y conduire. Seigneur, si certains de tes enfants traversent des moments difficiles, qu'ils se souviennent de ta grâce et de ton amour, que ton seul désir, c'est de vouloir de leur bien. Même si notre chair succombe, souffre, pleure, mais nous savons que l'issue est pour notre bien, il contribue à l'accomplissement de ton plan. Et si je recommande à chacun d'entre nous ce matin, hommes ou femmes, enfants, nos familles, nous te recommandons nos pays, nos autorités, qui ont besoin également du salut, leur titre d'autorité n'est même pas au-dessus du salut de Dieu, bien au contraire. Qu'il en soit ainsi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.